Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est aujourd'hui la solennité de la fête Dieu. Est-il inconvenant de faire un sermon sur les œuvres de miséricorde le jour d'une fête si solennelle, où nos regards sont attirés vers la Sainte Hostie, que nous sortons en procession, notre Seigneur qui est le roi dans le Saint-Sacrement, et la procession manifeste sa royauté. Et ne conviendrait-il pas d'interrompre le cours des sermons sur la miséricorde? Eh bien, je ne crois pas. C'est le même esprit. La première, la plus parfaite de toutes les œuvres de miséricorde, c'est la passion de notre Seigneur et sa mort sur la croix. Père, pardonnez-leur. C'est la grande œuvre de miséricorde. Et c'est dans la suite de cette grande œuvre de miséricorde que tous les chrétiens exercent la miséricorde, et c'est pourquoi elle a tant d'importance. La miséricorde dépasse largement un simple sentiment. Il y a un sentiment de miséricorde, mais c'est bien autre chose dans notre cas. Il y a une miséricorde humaine qui est déjà au-dessus du sentiment et qui est la conscience que nous sommes frères en tant qu'hommes. Il y a la miséricorde qui vient de la création, mais il y a surtout celle qui vient de la croix. La croix nous montre que les œuvres de miséricorde ne sont pas mièvres, et qu'elles ne sont pas sentimentales. C'est important parce que aujourd'hui, l'état d'esprit est mièvre et sentimental. Et par conséquent, tout ce que nous touchons est rendu mièvre et sentimental. Même la tradition. Il y a une mièvrerie et il y a un sentimentalisme. Un risque, disons, une tentation de mièvrerie et de sentimentalisme, même chez les bons chrétiens. C'est évidemment ce qui est une des premières causes de ralliement, parce que des âmes non viriles se laissent aller au monde, bien entendu. Les œuvres de miséricorde, la première, c'est d'enseigner la vérité. La deuxième, de donner des bons conseils. Ensuite, vous avez corrigé les pécheurs. On voit bien là qu'on est loin de la mièvrerie. On est bien dans la miséricorde, c'est-à-dire dans la bienfaisance, puisqu'on apporte à celui à qui cela manque la richesse dont il a absolument besoin pour être un homme et pour être un chrétien. On se préoccupe du bien de celui vers lequel on se penche, mais on s'en préoccupe en cherchant à lui donner ce dont il a besoin, et manifestement, ces œuvres, ces trois œuvres de miséricorde que je vous ai citées sont tout sauf du sentimentalisme et de la mièvrerie. Et c'est cette lumière que nous devons jeter sur les autres œuvres de miséricorde dont nous aurions tendance à faire des œuvres plus mièvres peut-être. Par exemple, pardonner les offenses. Dans le mot pardonner, il y a le mot don. On ne peut pas donner à quelqu'un qui ne tend pas la main pour recevoir. on peut encore moins donner à celui qui retire la main au moment où on lui fait le don. Ce serait même d'ailleurs contre nature et de la stupidité. On ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne demande pas pardon. Il faut qu'il demande pardon, et à ce moment-là, ce sont les œuvres de miséricorde que je vous ai citées en premier, enseigner la vérité, donner des bons conseils, corriger les pécheurs. On incite le pécheur à demander pardon, à Dieu plus qu'à nous, mais enfin à nous quand même. Il y a cette très belle histoire d'une jeune femme qui avait été torturée par un médecin nazi en France. Elle faisait partie de la résistance et on comprend que les Allemands aient quand même essayé de faire taire les résistants qui assez souvent leur tiraient dans le dos. Ce n'était pas son cas à elle. Elle a été héroïque dans les souffrances. Elle en est restée paralysée pour toute sa vie. Et 40 ans après, oui, 40 ans après, peut-être 50 même, elle reçoit un coup de téléphone. Elle reconnaît immédiatement la voix. C'est la voix de son bourreau. Et il lui dit, « Je viens d'apprendre que j'ai un cancer. » Je suis face à la mort, et quand je me rappelle comment vous avez été, vous, face à la mort, j'aimerais vous rencontrer pour que vous m'aidiez, moi aussi, à affronter la mort. Alors elle prend sur elle, elle lui dit de venir, il fait le voyage en région parisienne. Un livre a été écrit là-dessus, enfin par elle d'ailleurs. Il fait le voyage, il vient la voir. Et elle exige qu'il demande pardon. Et lui dit, mais ça n'est pas nécessaire. Et elle lui dit, si, vous ne pouvez pas affronter la mort, vous ne pouvez pas entrer dans l'éternité si vous ne demandez pas pardon pour le mal que vous avez fait. Et cet homme demande pardon. On a là une œuvre de miséricorde qui est très, très vraie, qui est virile, qui est à l'opposé de la bonasserie. On ne peut pas pardonner n'importe quoi à n'importe qui. On doit être prêt à pardonner. On doit être prêt, comme cette femme, à pardonner au bourreau, quel qu'il soit. Mais on ne doit pas offrir le pardon inconsidérément. Et c'est la même chose par rapport à ceux qui font tant de mal à l'Église catholique aujourd'hui. Nous sommes prêts à pardonner aux modernistes, mais nous ne leur pardonnerons que lorsqu'ils demanderont pardon. Nous sommes prêts à pardonner à Mgr Felet pour tout le mal qu'il a fait à la fraternité Saint-Pédis et qu'il nous a fait à nous-mêmes et à vous-mêmes, mes bien chers frères. Nous sommes bien prêts à pardonner, mais nous ne pardonnerons que quand il demandera pardon. La grande œuvre de miséricorde, la première, c'est d'enseigner la vérité, de remettre face à la vérité de Dieu, face à la réalité de Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu. En dehors de Dieu, c'est le mensonge. Le mot « vérité » aujourd'hui n'a pas bonne presse, comme plein d'autres mots qui paraissent inutiles. Pourquoi se donner tant de mal pour la vérité alors qu'il faudrait chercher beaucoup plus une efficacité pratique? Combien de fois on entend cela? Laissez tomber vos principes et cherchez l'efficacité pratique. Eh bien, la vérité, c'est la sagesse de Dieu. La vérité, c'est ce qui vient de Dieu. Si on sort de la vérité, on sort de Dieu. Et c'est ça le péché. Le péché a consisté à sortir de Dieu, à ne pas voir ce que Dieu fait, à ne pas vouloir admettre que Dieu a fait les choses d'une certaine manière. on peut sortir de la vérité de Dieu complètement, ce sont les apostats. On peut sortir en partie seulement, ce sont les pécheurs qui gardent la foi. On peut sortir plus ou moins de la vérité. Vous avez une grande différence entre un homme de foi fidèle qui malheureusement tombe dans les péchés, des péchés de faiblesse. Je suis en train de lire la vie de Louis XV. C'est très symptomatique de voir ce grand roi qui avait une foi très profonde, qui assistait à la messe tous les jours, qui assistait au salut du Saint-Sacrement très souvent, qui très rarement était en retard au salut du Saint-Sacrement, même après de longues chasses, et qui en même temps avait une faiblesse de la chair étonnante. Favorisé par son époque certainement, mais quand même. Et par, je pense, un défaut d'éducation, des choses qu'on ne lui avait pas dites, j'en suis persuadé. Eh bien, je préfère un Louis XV qui lutte de toutes ses forces contre les débuts de mondialisme qui cherchent à pénétrer en France, malgré ses faiblesses, à lui, Louis XV, un libéral, un moderniste, à un Monseigneur Felet, qui certainement n'ont pas ces vices de la chair, mais sont beaucoup moins dans la vérité de Dieu que ne l'était Louis XV. Beaucoup moins. Louis XV, par exemple, convertira la marquise de Pompadour. C'est lui qui l'a convertie. Elle était une libre penseur, une femme de son époque. C'est lui qui l'a convertie. La vérité est très importante. Je ne vous dis pas qu'il faut justifier les manquements à la vérité dans le domaine de la chair ou des domaines semblables, sous prétexte qu'on garde la foi. Si je fais cette comparaison, c'est évidemment pas pour justifier, mais c'est pour vous montrer ce qu'est la vérité, et c'est pour vous montrer combien un esprit faussé peut laisser tomber la vérité en croyant lui être fidèle. Alors nous faisons vivre le pécheur dans la vérité, nous le ramenons à la vérité de la foi en tout premier, et puis la vérité complète de Dieu, en lui faisant reconnaître que on ne peut pas impunément manquer à la sagesse de Dieu, même dans ce qui peut paraître des détails. Les pécheurs ont une grande facilité, il y a un aveuglement dans le péché, à voir des détails dans des choses qui sont malgré tout graves. L'œuvre de miséricorde de la vérité, c'est la prédication du catéchisme. Ne perdez pas une occasion, mes bien chers frères, d'enseigner le catéchisme. Que ce soit de façon informelle, dans des conversations, que ce soit de façon plus formelle, en organisant des cours de catéchisme. Si vous avez des petits-enfants qui ne pratiquent pas, qui peut-être, hélas, ne sont pas baptisés, la première chose à faire, c'est de les attirer chez vous pour pouvoir leur enseigner le catéchisme de façon attirante. C'est la première chose. Les œuvres de miséricorde corporelle vont être au service de cette première œuvre de miséricorde spirituelle qu'est l'enseignement de la vérité de Dieu. Ensuite, donner des bons conseils, c'est une miséricorde extraordinaire. Nous avons tous besoin de conseils. Nous avons tous besoin d'un point de vue différent du nôtre pour voir la même chose, mais d'un autre point de vue, d'une autre façon. C'est à cela qu'on reconnaît un ami. J'allais dire, c'est presque la définition de l'amitié, tout proche, disons. L'ami est celui qui vous dit les choses, qui n'a pas peur de dire les choses. Et cet ami, il faut le solliciter. Il faut l'encourager à dire les choses. Il faut lui montrer qu'on attend cela. Il n'y a pas de grand homme qui n'ait pas besoin des conseils d'un ami. A fortiori, s'il s'agit de pécheurs, il y a des conseils à donner. Des conseils qui doivent être délicats. Ça s'appelle la correction fraternelle. Saint Thomas d'Aquin dit qu'elle a pour but de corriger les pécheurs et non pas de nous donner satisfaction à nous, et par conséquent, nous devons mesurer nos paroles. C'est tout un équilibre, c'est très important cela encore, mes bien chers frères. Je vous ai dit qu'il doit y avoir une virilité dans notre manière d'exercer la miséricorde, et il doit y avoir en même temps une douceur. La douceur n'est absolument pas de la mièvrerie, elle n'est pas non plus du sentimentalisme. La douceur et la mesure vient de la raison qui fait qu'on réfléchit à ce qu'on fait. Et saint Thomas d'Aquin dit les œuvres de miséricorde, la correction fraternelle, a pour but de corriger le pécheur. Et donc il faut dire ce qu'il peut entendre comme il peut l'entendre, et s'il y a des paroles qui risquent de le rebuter, voire même le faire tomber plus bas par des rejets, ces paroles, il ne faut pas les dire. Les libéraux nous accuseront, nous, d'être libéraux. Ils nous diront, c'est du libéralisme. Mais ce sont les libéraux qui disent cela. Parce que le libéraux parle fort, mais n'agit pas. Le libéral exerce la miséricorde pour se donner bonne conscience à lui. Et si l'autre n'en profite pas, c'est de sa faute à l'autre, puisque c'est un mauvais, un méchant et un mécréant. Et que lui, le libéral, qui est si bien, si bon et si pur, on aurait dû le suivre. Et le libéral nous accusera de violence lorsque nous sommes virils, et il nous accusera de faiblesse lorsque nous sommes bons. Faisons bien attention, ne nous donnons pas la satisfaction de nous dire après coup « qu'est-ce que je lui ai passé ? Qu'est-ce que je lui ai dit ?» Il a tout entendu. Ça, ce sont des œuvres qui ne sont pas de miséricorde, mais qui ont pour but de nous faire plaisir à nous et de nous donner satisfaction, la satisfaction soi-disant d'un travail bien fait, et en réalité qui est un travail qu'on laisse inachevé. C'est très délicat, cela. Je me rappellerai toujours Mgr Lefebvre ayant visité un homme très bon, mais qui ne pratiquait pas, et je lui ai dit, « Mgr, vous lui avez parlé de se convertir ?»« Oh non, » me dit Mgr. « Vous lui avez parlé quand même du ciel, de l'enfer, parce qu'il est aux portes de l'éternité, et à la fin de sa vie, oh non, » me dit Mgr. J'ai dit, ma fin quand même, Mgr, vous lui avez parlé de Dieu ? Oh non, dit Mgr. Et moi, je n'y comprends rien. J'étais jeune séminariste, je n'y comprends rien. Ça m'étonne, cet évêque de fer qui ne dit rien, alors qu'il est invité spécialement pour favoriser la conversion de cet homme. Et je dis à Mgr, mais pourquoi n'avez-vous rien dit ? Oh, me dit-il, monsieur l'abbé, si cet homme avait refusé ce que je lui disais et avait prononcé, par exemple, un blasphème pour rejeter ce que je lui disais, à cause de moi, il serait en enfer, dans une place pire que celle qu'il mérite. C'est fort, et c'est vrai. Rassurez-vous, cet homme s'est converti. Moi, j'étais aussitôt allé voir le père Leboulch, mais qui ne m'avait pas beaucoup mieux expliqué. J'ai dit, monsieur, mon père, j'y comprends rien. Et le père Leboulch me dit, mais Mgr a promis de prier pour cette personne. Alors, cette personne sera convertie. Je dis, oh, ça c'est bien, c'est vous qui l'affirmez. Et cette personne a été convertie. Cette histoire, je la raconte souvent, parce qu'elle nous rappelle que nous devons être mesurés. Les autres œuvres de miséricorde, corriger les pécheurs. Corriger les pécheurs, c'est prendre les moyens d'empêcher le péché, surtout quand on a l'autorité. Et je terminerai là-dessus. Il y a une certaine autorité que donne l'amitié. Les Salésiens l'écrivent dans un livre d'éducation selon la méthode de Saint Jean Bosco. Je ne pense pas que ce soit des paroles de Saint Jean Bosco, mais certainement, quand on lit la vie, qu'on voit Saint Jean Bosco agir, on voit très nettement que l'amitié, qui était très forte chez Saint Jean Bosco, l'amitié lui donne une certitude, une autorité sur les autres, sur les âmes, et il exerce cette autorité, qui est une autorité très belle, parce que comme c'est une autorité dans l'amitié, c'est une autorité facilement reçue, qui passe bien, mais il faut l'exercer. Très souvent, justement, par souci d'être agréable, de ne pas braquer, de respecter ce que je vous disais l'instant d'avant, alors on s'abstient et on oublie que lorsqu'un ami vous autorise à être son ami, il vous autorise à avoir sur lui une certaine autorité lorsque c'est nécessaire, à charge de revanche éventuellement. Et c'est ce qu'il attend, c'est ce qu'il attend de l'amitié. L'amitié est un désir de progresser en commun et un ami attend que son ami l'aide à progresser même là où il ne le voit pas, même là où il ne le veut pas. Voilà, mes bien chers frères, des beaux programmes. Évidemment, comment mettre tout cela en œuvre? Je vous en parlerai un petit peu, mais déjà, ces choses sont si belles que je suis certain que ça réveille, ça éveille, ou ça entretient dans votre âme, dans votre cœur, le désir de faire du bien et d'être ainsi à la hauteur de notre Seigneur qui est mort pour nous et qui, dans la communion, nous communique ce zèle. La communion, il faut quand même que je vous en dise un mot, nous la voyons trop souvent de façon égoïste. Mon bon Jésus, bien à moi que je possède. Alors que la communion est la source du sacrifice. Jésus me communique son esprit de sacrifice. Il me lance dans la miséricorde à sa suite, qui est le modèle premier et le maître de toute miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.